VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 9 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, deux attentats qualifiés de terroristes ont fait 8 morts et des blessés samedi et dimanche dans 2 localités.
Au Mali, le djihadiste Iyad Aghali se dit ouvert au dialogue alors que 2 personnes ont été tuées dans une attaque contre une banque de Tombouctou.
Les États-Unis nomment leur premier émissaire pour le Sahel, Peter Pham, qui s'occupait jusqu'ici de l'Afrique des Grands Lacs.
AFRICOM annonce la mort d'un haut commandant Shebab dans une frappe aérienne américaine le mois dernier en Somalie.
Premier décès lié au coronavirus en Afrique. Un touriste allemand succombe dans le sud-est de l'Égypte.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump défend, face aux critiques, son plan de lutte contre le coronavirus qui continue de se propager dans le pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 2 attentats terroristes ont fait 8 morts et des blessés samedi et dimanche dans 2 localités, dont l'une en zone anglophone, ont annoncé hier soir les autorités administratives. L'un des attentats s'est produit à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, pendant les festivités de la Journée internationale de la femme. Précision à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Selon des sources de sécurité de la ville de Bamenda, 3 militaires ont eu des jambes presque totalement coupées après l'explosion dimanche matin d'un engin à la place de fête de la ville. Des hommes sortis sur moto ont actionné l'explosif caché dans une boutique à 40 mètres de la tribune officielle où se trouvait le gouverneur de la région du Nord-Ouest, relatent les autorités militaires. Ce sont des terroristes et ceux qui les soutiennent qui ont fait cela, a commenté Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur du Nord-Ouest. L'attentat a fait d'autres blessés légers, 2 militaires et 2 policiers dont le pronostic vital n'est pas inquiétant selon les sources médicales de l'hôpital général de Bamenda. Samedi dans la nuit, la brigade de gendarmerie et le poste de police de la localité de Galim, à 278 km de Bamenda, ont subi des attentats simultanés qui ont fait 8 morts, 2 gendarmes, 2 policiers et 4 civils. Galim est une localité située dans la région occidentale et proche de celle du Nord-Ouest, en zone anglophone. Le sous-préfet de Mbouda, commune à laquelle la localité de Galim est rattachée, a accusé dimanche soir, sur la radio d'État, les sécessionnistes anglophones d'avoir mené cette double attaque pendant 1h30, a-t-il précisé. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Mali, 2 gardes ont été assassinés devant une banque à Tombouctou par des hommes armés non identifiés qui, après, ont disparu dans la ville. A signalé aussi que le chef djihadiste Iyad Aghali se dit ouvert au dialogue, mais sous certaines conditions. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Les assaillants étaient au nombre de 2. À bord d'un véhicule, ils ont quitté vers le marché communément appelé Yobutao. Arrêté au niveau des gardes, un seul homme a tiré sur les agents. 2 sont morts. Après, le tireur est descendu du véhicule. Il a pris les armes des victimes avant de remonter dans son véhicule. Selon les témoins, ils sont repartis dans la petite ruelle derrière le lycée Maman Alassane Aïdra de Tombouctou. Les 2 gardes abattus étaient en faction devant l'agence de la Banque malienne de solidarité de Tombouctou, une banque situé en pleine ville. Après cet assassinat, les forces armées maliennes se sont mobilisées, car les assaillants se sont dispersés dans la ville. Leur recherche était en cours. Cette situation fait très peur, car personne ne connaît le nombre exact des bandits qui ont mené cette attaque. Par ailleurs, dans un communiqué publié en arabe, Iyad Aghali serait favorable à une éventuelle négociation avec le Mali, mais à condition que les troupes françaises quittent le territoire. Il faut signaler que c'est lors du dialogue national que les Maliens ont demandé l'ouverture des négociations avec Iyad Aghali et Amadou Koufa. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les États-Unis ont annoncé hier la nomination de leur premier émissaire pour le Sahel. Il s'agit de Peter Pham, qui s'occupait jusqu'ici de l'Afrique des Grands Lacs. La porte-parole du Département d'État, Morgan Ortagus, a écrit dans un tweet que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a chargé M. Pham d'y soutenir les efforts diplomatiques américains pour la sécurité et la stabilité. Lors d'une récente tournée en Afrique, M. Pompeo avait assuré que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut en partenariat partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire sur le continent, notamment au Sahel, confronté à des violences djihadistes.
Et justement, à ce sujet, l'AFP a appris hier auprès de sources sécuritaires locales qu'une position de l'armée nigérienne a été violemment attaquée samedi par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram à Chetima Wangu, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. Il y a eu des blessés parmi nos soldats qui ont été admis à l'hôpital de Difa pour des soins d'urgence, a indiqué un journaliste local. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram.
Des centaines d'Éthiopiens ont rendu hommage aux 157 victimes du crash d'Ethiopian Airlines. Ils se sont rassemblés hier sur le site où le vol 302 de cette compagnie s'est écrasé le 10 mars 2019 au sud-est d'Addis Abeba. Eric Manirakidza.
L'hommage s'est déroulé selon le cérémonial Oromo, ethnie la plus importante en Éthiopie, avec des prières, des chants et des offrandes aux morts. Au début de la cérémonie, des cavaliers ont galopé autour du lieu du crash. Certains portaient des drapeaux noirs pour le deuil, d'autres des drapeaux blancs symbolisant la renaissance. Puis, des femmes ont revêtu des vêtements blancs sur leur tenue noire, symbolisant ainsi la fin de la période de deuil. La plupart des participants venaient de villages proches du site de l'accident dans la région d'Oromia. Les victimes étaient originaires de plus de 30 pays, mais les villageois leur ont rendu hommage, même s'ils ne les connaissaient pas, a déclaré Chifaro Hinserumu, coordinateur de la cérémonie. Dimanche également, des familles des victimes éthiopiennes ont assisté à un service de prière à la cathédrale de la Sainte Trinité d'Addis Abeba. Et les proches de victimes étrangères ont commencé à arriver en Éthiopie pour participer à une cérémonie privée sur le site de l'accident prévu mardi. Le type de mémorial qui sera érigé sur le lieu du crash n'a pas encore été déterminé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Égypte a annoncé hier le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus dans le sud-est du pays. Il s'agit d'un touriste allemand âgé de 60 ans, admis à l'hôpital le 6 mars et testé positif le lendemain.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a défendu hier l'action de son gouvernement après des critiques sur la lenteur et les ratés de la lutte contre le coronavirus qui continue de se propager aux États-Unis. Au total, plus de 500 personnes y ont contracté le Covid-19 qui a fait au moins 21 morts, dont 17 ayant un lien avec une maison de retraite dans l'État de Washington dans le Nord-Ouest. De nouveau, Eric Manirakidza.
30 États ainsi que la capitale fédérale Washington sont désormais touchés, poussant l'État de New York, la Californie et l'Oregon à décréter l'état d'urgence. Accusé d'avoir déformé la réalité de l'épidémie dans ses déclarations, le président Trump a mis les critiques sur le dos des médias de désinformation. « Nous avons un plan parfaitement coordonné et bien préparé à la Maison-Blanche », a-t-il affirmé dimanche sur Twitter. Il a aussi semblé encourager les personnes infectées à ne pas s'isoler, en totale contradiction avec les consignes officielles de mise en quarantaine volontaire. Il a également émis des doutes sur les statistiques de l'OMS concernant le taux de mortalité du virus. Le vice-président Mike Pence a été nommé coordinateur de la lutte contre le virus le 26 février seulement. Les autorités californiennes ont indiqué dimanche que les passagers d'un navire de croisière où 21 cas de coronavirus a été détecté seraient placés en quarantaine ou admis dans des hôpitaux après leur débarquement lundi à Auckland. Le Grand Princess transporte 3500 passagers et membres d'équipage. L'épidémie a également entraîné l'annulation de plusieurs grands événements aux États-Unis, mais le gouvernement n'a pour l'instant pas donné d'instructions sur ces rassemblements.
Et puis le sénateur du Texas, Ted Cruz, ancien candidat à la présidentielle de 2016, a annoncé hier soir sa mise en quarantaine volontaire. Il avait serré la main à une personne porteuse du virus lors du récent grand rendez-vous annuel des conservateurs, auquel ont également participé le président Trump et le vice-président Mike Pence. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Les marchés en Arabie Saoudite et dans les autres pays du Golfe ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années à leur ouverture dimanche après l'absence d'accord entre l'OPEP et la Russie sur des coupes de production de pétrole. Déjà affectée par l'épidémie du nouveau coronavirus, la bourse saoudienne a plongé de 7,7% alors que les marchés ont dévissé à Dubaï de 8,5% ainsi qu'au Koweït et à Abu Dhabi en chute de plus de 7%. La bourse du Qatar a chuté de 3,5%, celle de Bahreïn de 3% et celle d'Oman de 1,1%. L'échec de la réunion de Vienne a fait plonger vendredi le baril new-yorkais de WTI de plus de 10% à 41,28$ et le baril londonien de Brent de plus de 9% à 45,27, tous deux tombant à des niveaux plus vus depuis près de 4 ans. La compagnie spatiale américaine SpaceX a annoncé un partenariat destiné à envoyer dès l'année prochaine 3 touristes vers la station spatiale internationale ISS, ce qui n'a pas été fait depuis plus de 10 ans. Chaque lancement de sa fusée Falcon 9 coûte à SpaceX environ 60 millions de dollars. En ajoutant le coût de construction de la capsule, on peut estimer que le billet pour l'ISS s'élèvera à plusieurs dizaines de millions de dollars.
Les sports à présent avec Élisée Oumfatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football ont disputé hier les quarts de finale retour de la Coupe CAF.
Oui, et un club sud-sahélien résiste à l'hégémonie nord-africaine en se qualifiant pour les demi-finales. Il s'agit de Oroya de Conakry qui a battu 2-0 les Nigériens de Nimba après le match nul 1 partout du match aller. Les Guinéens affronteront en demi les Égyptiens de Pyramide qui ont écarté les Zambiens de Zanaco. L'autre demi-finale se jouera entre deux clubs marocains. La Renaissance de Berkane, qualifiée aux dépens des Égyptiens d'Al-Masri, sera face à Hassania Agadi, deux fois vainqueur des Libyens d'Al-Nasr. Ces deux matchs auront lieu le 3 mai prochain.
Le dernier carré de la Ligue des Champions est aussi connu.
Et ce sera entre Marocains et Égyptiens. Les deux clubs de Casablanca affronteront donc leur homologue du Caire. Le Wydad Tombeur des Tunisiens de l'Étoile du Sahel affrontera Al Ahly, qualifié aux dépens des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et puis le Zamalek qui a éliminé le double tenant du titre, l'Espérant de Tunis, en découdra avec le Raja de Casablanca qui a sorti les Congolais du TP Mazembe. Le club de Lumachi dans la foulée a limogé son entraîneur Pamphile Miayo, remplacé par le franco-serbe Drazen Zvetkovic. Demi-finale aller prévue les 1er et 2 mars prochains, match retour une semaine plus tard.
On reste sur le continent, la Côte d'Ivoire, avec la 20e journée du championnat.
Oui, et le Racing Club d'Abidjan, vainqueur d'Africa Sport 1-0, consolide sa première place au classement avec 38 points. 3 points d'avance sur le FC San Pedro, victorieux 3-0 d'Assi Dambengourou. La SEC Mimosa accroché à Gagnoua complète le podium. 20e journée également au Togo marquée par le derby de Kara. Et c'est la SCK qui l'emporte 2-1 devant Asco. Une victoire qui propulse le champion en titre à la 3e place. Asco, bien que battu, garde la tête du classement avec 6 points d'avance sur Unisport, battu par l'AS Togoport.
Au Bénin, on jouait la 17e journée de la Ligue 1.
Ayema, leader au classement, s'est incliné 0-2 à Calabi devant Aspac. Ezae, vainqueur de la JS Poubet 1-0, prend la 2e place devant les Buffs du Borgou, accroché à domicile par Dynamo de Parakou 0-0. 13e journée au Sénégal, Eternguet FC creuse l'écart après avoir battu 1-0 CNEPS. Avec 38 points, le club de Rufisk compte désormais 12 points d'avance sur la S-Douane, vainqueur de 1 de Mbou Petite Côte. Et puis au Cameroun, Coton Sport s'empare de la tête du classement avec 45 points grâce à sa victoire à domicile 1-0 contre Kano de Yaoundé. Le club de Gagnoua compte 1 point d'avance sur PWD de Babemda, battu par Bamboutos de Mbouda. Et puis du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Confrontation épique entre les deux équipes rivales de Los Angeles et ce sont les Lakers de LeBron James qui ont eu le dessus sur les Clippers de Kawhi Leonard 112-103. La Nouvelle-Orléans et Minnesota 120-107, Phoenix et Milwaukee 140-131, Toronto et Sacramento 118-113, Oklahoma City et Boston 105-104, Indiana et Dallas 112-109, New York et Détroit 96-84.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. De nombreuses jeunes filles camerounaises sont victimes de traite et de trafic d'êtres humains. C'est ce que révèle une association locale qui a mené des recherches sur le sujet ces trois dernières années. Ces Camerounaises sont revenues pour la plupart de certains pays du Golfe Persique et d'Afrique du Nord. Le gouvernement, ses partenaires internationaux et la société civile veulent éradiquer ce phénomène. De plus en plus, les jeunes filles concernées sortent de leur silence et racontent ce qu'elles ont vécu. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, en a rencontré quelques-unes.
Quand on m'a vendu, c'est quand on m'a capturé dans l'eau. Nous étions plus de 200 personnes, d'autres sont même morts.
Edwige Christel a tenté la traversée de la Méditerranée pour l'Europe en passant par l'Algérie, le Maroc et la Libye. C'est dans ce dernier pays qu'elle a été victime, dit-elle, de traite et du trafic humain.
En Libye, j'ai fait 6 mois pour essayer d'entrer en Italie et j'ai été malheureusement capturée à la Méditerranée. J'étais enceinte de 6 mois. On a demandé la rançon à ma famille, 3 500 000. Ils ont envoyé, je suis sortie et c'est là que la Croix-Rouge là-bas en Libye nous a récupérés. Ils nous ont envoyés dans les différents camps de l'Union européenne pour nous rapatrier.
Le cas d'Edwige Christel est loin d'être unique au Cameroun.
J'avais pour voisin un policier qui me dit « j'ai mon réseau à moi ». Par exemple, pour que tu aies l'opportunité non seulement de poursuivre tes études en médecine et aussi de travailler en même temps, tu seras rémunéré 600 000 francs.
Séduite par l'offre, Berthe Olga, alors étudiante, va céder en contrepartie une parcelle au policier en question. Mais en réalité, Olga avait été vendue au profit d'une agence au Koweït comme personnel de ménage dans 3 familles successives.
Ce sont des grands salons où il faut nettoyer de fond en comble. Et à longueur de journée, on ne cesse de vous répéter, est-ce que tu sais que tu m'as coûté cher, tu m'as coûté très cher, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Peu importe, tu dors à minuit, 1 heure, 2 heures, à 4 heures, tu dois être debout. On crache sur toi, on te bave, parce que je mangeais presque pas.
La famille de Berthe Olga a dû payer 1 200 000 francs CFA à l'agence qui l'employait pendant 2 ans au Koweït pour qu'elle retourne au bercail. Au Cameroun, le ministère des Affaires sociales et le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations ont institué le projet Évaluation situationnelle de la traite des personnes au Cameroun. L'association OPI Human Migrant est l'un des partenaires techniques du projet. Cyril Némandé, président de la dite association.
Il y a autour de 4000 Camerounais ces 3 dernières années, confondus hommes et femmes, enfants même, qui ont été victimes de traite et de trafic dans notre pays. Sur les routes de la migration irrégulière, 90% sont victimes. Parce que déjà, il faut savoir que la traite englobe beaucoup de phénomènes. Ça englobe l'exploitation sur les routes. Il y a des personnes qui, par exemple, lorsque vous n'avez pas de téléphone, c'est elles qui sont en contact avec vos familles et qui perçoivent de l'argent de vos familles et ne vous les restituent pas. Il y a des travaux forcés, il y a de l'esclavage, il y a de la prostitution sur les routes.
L'une des affaires de trafic humain des filles camerounaises au Koweït a fait grand bruit l'an dernier. La plus haute autorité de la police s'est saisie du dossier suite à une dénonciation de la victime. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Au Tchad, les femmes, toutes couches sociales confondues, ont célébré hier, à l'instar des autres femmes du monde, la Journée internationale de la femme couplée à la Semaine nationale de la femme tchadienne. Cette volonté des autorités tchadiennes d'offrir aux femmes une tribune pour échanger sur leurs conditions de vie a-t-elle un impact sur leur vie quotidienne? Question posée par notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, qui nous offre dans ce reportage quelques éléments de réponse.
La Semaine nationale de la femme tchadienne instituée en 1990, qui s'étale sur 7 jours, est une période de réflexion et d'analyse de la contribution de la femme au développement du Tchad. En couplant cet événement à la Journée internationale de la femme, qui s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, les autorités tchadiennes donnent la possibilité aux femmes un cadre idéal pour réclamer les meilleures conditions de vie et l'égalité entre l'homme et la femme.
Chaque 8 mars, vous allez voir ces femmes-là dans les débits de poissons pour s'amuser parce qu'elles se disent que c'est leur fête. Je suis désolée de le dire parce que je me dis que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les autres ont marché un 8 mars.
Maître Nouma et Clarisse, avocate au barreau du Tchad et présidente de l'Association des écrivains tchadiens d'expression française. Pour elle, le 8 mars devrait être célébré autrement en associant les femmes désœuvrées dans les activités.
Si par exemple le 8 mars, on se regroupe quelque part pour réclamer par exemple plus de fourrage dans les localités où les femmes font des milliers de kilomètres pour chercher l'eau, pour entretenir leur famille, pour réclamer moins de violence ou non ou stop aux violences faites aux femmes, ce serait idéal pour moi. Je voudrais que l'on revienne à cela et non danser, réclamer des pains et autres, non.
Titimbay Mariam Thierry, alors directrice de la promotion de la femme dans les années 90 qui a lancé les toutes premières activités de la Sénafête au Tchad, estime qu'après trois décennies, il y a un impact positif sur la vie de la femme tchadienne, surtout sur le plan administratif, même s'il reste beaucoup à faire.
Avant, il n'y avait pas assez de femmes dans le gouvernement. Par exemple, en 82, il y avait une seule femme ministre jusqu'en 90. Mais après 90, il y a eu beaucoup de femmes. De 3, on est passé à 4, 5, 6. Et il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées au poste de haute institution. Mais malheureusement, elles ne sont pas solidaires.
Pour beaucoup, Louise Ngara-Domri, femme politique, l'institutionnalisation de la Sénafête au Tchad a libéré la femme tchadienne sous le poids de la tradition et de sa dépendance.
Vous savez qu'avant, quand le mari décède, eh bien, la femme est chassée comme une personne malpropre pour recommencer une vie à 30 ans ou 40 ans de mariage. Mais maintenant, toutes ces discriminations-là, il y a les textes qui couvrent et qui donnent la possibilité, et c'est par la voie de la Sénafête, ce qui amenait la femme tchadienne aujourd'hui à évoluer progressivement, mais c'est insuffisant. C'est resté dans les textes.
Pour beaucoup de Tchadiens, il faut redimensionner les activités de la Sénafête à la prochaine édition en sortant du folklore pour poser des actes concrets, car elle est en train d'être vidée de son sens. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Et au Burkina Faso, pour une fois, ce sont les hommes qui ont fait le marché et la cuisine hier. Reportage de notre correspondant Alidou Ouedraogo à Bobo-Dioulasso.
Nous sommes au marché des légumes de Bobo-Dioulasso à quelques encablures de la cathédrale dans le centre-ville. Devant des étals de légumes fraîchement cueillis, des acheteurs inhabituels, des hommes venus faire le marché en cette journée du 8 mars. En chemise peint du 8 mars, Souleymane Yaro, la quarantaine dépassée, apprécie son premier marché.
J'ai acheté des tomates, oignons et haricots verts. C'est cher parce que c'est nous les hommes qui payons. Le haricot vert qu'on vendait à 200 francs est passé à 300.
Avec son panier plein de légumes de toutes sortes, Cédric Rouamba estime que le marché devrait être obligatoire pour les hommes chaque 8 mars.
Le marché est vraiment bien fourni. Je pense qu'on aurait dû faire comme au temps de Sangara, renvoyer tous les hommes. Le 8 mars pour venir faire des achats à la place des femmes, ce qui permet de connaître réellement les prix. Et en ce moment, quand les femmes font des exigences pour la popote et autres, là, en ce moment, il n'y a plus de problème, parce que toi-même, tu connais les prix.
Au secteur 4 de la ville, Djeneba connaît cuit des frites sur un fourneau. Elle apprécie le fait que les hommes font le marché.
Moi, en tout cas, j'apprécie ça. C'est ce qui montre que l'homme accepte l'autonomie de la femme. C'est la liberté de la femme que nous fêtons. Ces hommes qui le font, ça veut dire qu'ils sont pour cette liberté. Alors, contrairement à ceux qui ne le font pas.
Devant son étal, Orokia Sano pense aux femmes du Sahel et du Nord, ces régions affectées par le terrorisme.
Il faut que les autorités sécurisent les zones en danger pour permettre aux femmes de s'épanouir. À cause de ces gens, nous-mêmes, on a peur de fréquenter certains endroits.
Enfin, Cédric Rouamba appelle les femmes à un changement de mentalité.
Au niveau même de la Constitution, moi, j'aurais préféré que l'on mette un article d'interdiction que l'on frappe la femme. Mais l'essentiel pour nos femmes et pour nos filles, là, c'est étudier le temps où on est assis devant la maison pour se faire belle et puis avoir un mari, là. Ce temps-là est fini.
Le 8 mars, à Bobo-Dioulasso n'a pas connu cette la ferveur populaire habituelle en raison de la situation sécuritaire du pays. Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Bénin, la loi des finances 2020 oblige les entreprises à délivrer aux clients des factures normalisées comportant des données comme la TVA. Il était ainsi demandé aux entrepreneurs de s'équiper de la machine électronique certifiée de facturation avant le mois de mars. Mais le 23 février, les députés ont adopté une mesure exemptant les petites entreprises de cet achat. Nathalie Barge a joint Sandrine Medegan, promotrice de produits locaux pour la plateforme Made in Benin Market, qui fait le plaidoyer des petits producteurs.
Avec un coût de près de 500 000 francs à débourser pour acheter les machines à facturation, c'était un gros coup de massue porté aux petites entreprises qui, pour la plupart, n'ont pas du tout de gros capital. Donc, depuis le 23 février dernier, la DGI a exempté justement ces petites et micro-entreprises à l'achat de ces machines. Et les machines ne sont plus destinées aux entreprises assujetties à la TVA, soit les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Du coup, c'est un gros soulagement pour nous.
Est-ce qu'il vous a été proposé des solutions alternatives pour pouvoir contrôler également les revenus de ces petites entreprises ou non?
Actuellement, ils sont en réflexion parce qu'entre-temps, ce n'est qu'une déclaration sur la confiance. Donc, du coup, la réflexion continue au niveau de la direction des impôts pour trouver des solutions plus adéquates.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, notamment, pour produire tout cela?
La principale difficulté que nous avons, c'est l'accompagnement. Parce que nous recevons tout plein de producteurs qui n'ont pas forcément les moyens de communication sur leurs produits. Ce que nous faisons, c'est vraiment de la communication classique, de la communication avec des moyens de bord. Donc, nous n'avons pas vraiment les moyens de porter plus haut ces produits locaux-là, en communiquant à plus grande échelle.
Est-ce que vous bénéficiez de certains crédits intéressants?
En tant que petite entreprise, nous n'avons pas de moyens de garantie fiable. Donc, du coup, nous ne pouvons même pas aller vers des grandes banques, parce que c'est des banques qui vous demandent des garanties assez colossales. Pour les entreprises que nous avons, ce n'est pas encore possible. Nous ne pouvons travailler qu'avec l'informel, c'est-à-dire avec les usuriers qui nous prennent plus d'argent en intérêt que nous ne recevons au final pour nos entreprises.
Est-ce que vous avez accès aux grandes surfaces?
Assez oui, on a quand même les grandes surfaces assez accessibles, mais le paiement au niveau de ces grandes surfaces revient poser le problème d'accompagnement, de financement en fait. Parce que lorsque vous déposez des produits en grande surface, un lot de produits de 250-300 000 francs, et qu'on vous dit qu'il faudra attendre 45 à 70 jours avant d'être payé, on n'a pas les moyens de produire plus pour pouvoir supporter en attendant le paiement de cette grande surface-là.
Sandrine Medegan, promotrice de produits locaux pour la plateforme Made in Benin Market.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.